Qui n'a jamais vu ripaille, n'a jamais vu rien qui vaille. Ce nouvel épisode vous emmène au fil du temps, entre nature et histoire, direction le château de Ripaille. À vol d'oiseau, pas si loin de Chamonix.
ATMB et Globule Radio vous proposent maintenant un voyage sonore au départ de Chamonix.
À vol d'oiseau.
La saison 2 de la chronique Tapis Volant pour étancher votre soif de mouvement au pays du Mont-Blanc.
Pour le rejoindre, mon tapis et moi choisissons de faire un détour par la route des Ducs de Savoie, route historique créée en 1984. Nous survolons tour à tour le château de Torrent, à l'entrée du plateau des Glières, le château de Clermont, splendide résidence renaissance édifiée en 1575, l'abbaye de Hautecombe, fondée en 1139, cette abbaye au bord du magnifique lac du Bourget, est choisie comme nécropole de la Maison de Savoie. Saint-Jean-de-Maurienne, qui est le berceau de la Maison de Savoie. Ok, c'est un détour, un long coursi, comme disait mon fils. Mais le vol est merveilleux. De la Maurienne, leur berceau, à Hautecombe, leur nécropole, comtes, ducs, princes et rois ont sillonné les provinces de Savoie, allant du lac du Bourget au Léman et de Chambéry à Turin. Nous revenons, les yeux émerveillés de la richesse de ce territoire, vers le château de Ripaille. Vu d'en haut, c'est tout simplement dingue. Aux portes de Thonon, émergeant des vignes à la lisière du delta de la Drance, le domaine de Ripaille est un haut lieu de l'histoire de la Savoie. S'étendant sur 120 hectares au bord du lac, Ripaille est intéressant à plusieurs titres. Par son architecture et son histoire liées aux périodes les plus brillantes du passé savoyard, mais aussi par la beauté de la nature environnante et par la douceur de son vin. Simple rendez-vous de chasse, construit par Amédée V, le pavillon fut transformé en résidence par Bonne de Bourbon à partir de 1371. N'en subsiste aujourd'hui qu'une tour de guet et une salle voûtée. On doit l'édifice actuel à Amédée VIII, qui fit bâtir en 1434 un château de 7 tours et 7 pavillons pour y loger ses compagnons à proximité du prieuré installé dans l'ancien logis de Bonne de Bourbon. Mais vous connaissez, vous, Amédée VIII ? Eh bien, Amédée VIII est dit le Pacifique. Il naît en 1383 au château de Chambéry et meurt à Genève en 1451. Il est comte de Savoie, duc de Chablais et d'Aoste, prince de Piémont, marquis en Italie, comte de Genève, vicaire impérial puis duc de Savoie dès 1416 et antipape sous le nom de Félix V entre 1439 et 1449. Amédée VIII est considéré comme le plus sédentaire des souverains de la Maison de Savoie et parvient à ce que jamais sous son règne il n'y eut de combat en Savoie, en plein cœur de la guerre de Cent Ans. Cependant, il emploie la force à plusieurs reprises, créant une armée de 20 000 hommes souvent sollicités. Ces soldats sont répartis en différents corps auxiliaires que le duc envoie selon ses besoins en France, en Suisse, en Italie, en Allemagne et même jusqu'en Orient. Mais cette grande puissance militaire ne lui a pas servi d'instrument de conquête. Elle était plutôt un soutien à son activité diplomatique particulièrement intense. Il est considéré comme l'un des principaux fondateurs des États de Savoie grâce à l'érection du comté en duché le 19 février 1416 par l'empereur Sigismond. Cette érection s'explique avant tout par l'aide apportée par la diplomatie de Savoie à l'empereur germanique pour résoudre le grand schisme d'Occident. C'est aussi grâce à l'acquisition par les États de Savoie du puissant comté indépendant de Genève en 1401. C'est aussi Amédée VIII qui y a obtenu le rattachement définitif aux États de Savoie du comté de Nice en 1419. En 1434, Amédée VIII se retire au château de Ripaille. 6 chevaliers l'accompagnent dans cette retraite. Ils forment ainsi un ordre qui semble plus religieux bien que militaire, l'ordre de Saint-Maurice. Ils portent une grise robe, long mantel et chaperon gris à courte cornette d'un pied ou environ, et un bonnet vermeil par-dessous son chaperon et par-dessus la dite robe, ceinture dorée, et par-dessus le mantel, une croix d'or. Ils gardent par ailleurs la barbe et les cheveux longs. Ils sont tantôt appelés chevaliers de Ripaille, tantôt chevaliers de Saint-Maurice. Deux jours par semaine, les chevaliers de Ripaille s'occupent des affaires de la Savoie et les cinq autres, ils se consacrent à une vie presque monacale. Ainsi construit par le premier duc de Savoie, le château est d'une grande originalité. Ses tours sont alignées le long de la façade et constituent un type sans doute unique dans l'habitat, mi-seigneurial, mi-communautaire. Abandonné puis ruiné par les guerres de religion, le château de Ripaille fut cédé aux Chartreux qui y édifièrent une vaste église baroque en 1762. Vendu en 1809, le château est largement transformé et la Chartreuse sera démolie en 1893. Seul le pressoir et la cuisine du XVIIe siècle ont été épargnés. À la fin du XIXe siècle, le site de Ripaille tombait en ruine. C'est alors que l'Alsacien Frédéric Engelgros, propriétaire des filatures DMC et grand amateur d'art, tomba amoureux du site et en fit l'acquisition. Il restaura entièrement le domaine. Il réalisa une œuvre d'art totale, dans le sens wagnérien du terme, où tout s'harmonisait, les bâtiments, l'architecture et la décoration intérieure, les jardins, la vigne, les forêts. Il s'inscrivait dans un mouvement européen d'avant-garde, la Renaissance des châteaux forts, qui se distanciait de l'historicisme d'un Viollet-le-Duc et qui n'hésitait pas, lorsqu'un bâtiment ancien était en ruine, à mélanger le style moderne avec le style ancien. C'est ainsi qu'à Ripaille, partout où les bâtiments étaient en bon état, comme par exemple dans ce qu'on appelle aujourd'hui la Chartreuse, Engelgros fit restaurer à l'identique ses édifices. En revanche, là où les bâtiments étaient en ruine, ce qui était le cas notamment du château, il ne tenta pas une hypothétique reconstitution à l'identique de ce qui existait autrefois, mais fit une audacieuse création qui combinait style médiéval et art nouveau. Le château de Ripaille est devenu ainsi une véritable vitrine des meilleures créations de ce style art nouveau. La visite du château nous plonge au cœur de l'histoire. J'en apprends davantage sur l'histoire des comtes et du premier duc de Savoie, Amédée VIII, sur celle des religieux au château, qui fut une chartreuse à partir de 1622, sur Frédéric Engelgros, cet industriel esthète qui racheta le château en 1900.
Il est un château dans un village tout au bord de l'eau. J'y venais depuis Bougie avec les oiseaux.
Je m'étonne dans la salle des Amédée devant des objets originaux et inédits des 14e et 15e siècles. J'imagine la vie au château à la belle époque, dans la reconstitution d'une ancienne cuisine, d'une salle à manger et d'un boudoir. Après cette visite historique, je me balade en extérieur. Une partie de ce domaine, ancien terrain de chasse de la maison de Savoie, a été transformée en arboretum. 58 essences y ont été introduites entre 1930 et 1934, dont certaines sont très rares, comme le thuya gigantesque, le chêne rouge d'Amérique, l'érable sycomore, le pin géant de l'Himalaya, le sapin de Douglas et le noyer noir. Autre particularité de ce territoire d'exception, le château de Ripaille est entouré de 22 hectares de vignes qui ont une situation privilégiée. Le vignoble du domaine produit un vin qui, à en croire Henri Bordeaux, est subtil et quelquefois perfide. Le Chasselas de Ripaille est un vin blanc d'appellation d'origine contrôlée, friand, fruité au nez, frais au palais, avec des arômes d'amandes grillées et d'agrumes. Si l'on remonte dans le temps, le duc Amédée VIII avait un des meilleurs cuisiniers de son époque, Maître Chicard, auteur d'un des plus fameux traités de cuisine du Moyen-Âge. L'expression « faire ripaille » existait dans la langue française avant que le site de Ripaille ne soit connu. Cependant, depuis Voltaire, le château de Ripaille est devenu synonyme de bonne chère, grâce à un poème intitulé « Épître au bord du lac Léman », datant de 1755. Et si vous n'avez pas de tapis volant, prenez la sortie 15 sur l'A40 en direction de la Vallée Verte.
À vol d'oiseau.
La saison 2 de la chronique Tapis Volant pour étancher votre soif de mouvement au pays du Mont Blanc.
À très vite pour un nouveau voyage avec ATMB et Globule Radio.